Il est 20h30 sur Transistor, on passe à la culture, 20h31 même, et sans plus tarder, on vous retrouve Marthe et Léa pour ce journal de la culture, donc Léa qui donc joue encore aux Sims.
Absolument Rémi. C'est parti pour le journal de la culture et cette édition commence tristement, car Sarah, mon acolyte, n'est pas là. Mais, heureusement, elle nous a laissé quelques traces de son périple nantais qui sera lu par une nouvelle acolyte, Marthe. Salut Marthe. Alors, est-ce qu'il pleut sur Nantes en ce moment?
Ah, Barbara serait-elle Notre-Dame météo du jour? Eh bien non. Le week-end dernier, c'était la brume qui couvrait la jolie ville du Pays de la Loire, et non de la Bretagne, je souligne très très fort, car il y a des Bretons sur nos ondes. Où en étais-je? Ah oui, la brume. Quelle grisaille. Pourtant, mille couleurs surgissaient du ciel, du de-ci, de-là, à tous les coins de rue. Pardon, toutes mes excuses. Donc je vous parlais de Nantes. Donc Guirgoumi et Link aux oreilles pointues défilaient sur les pavés de Nantes. Faut-il croire qu'à Nantes, croiser un bébé licorne violet à paillettes, tout ce qu'il y a de plus kawaii, ou un petit bonhomme affublé d'une épée en mousse, c'est banal? Eh bien non. Chers auditeurs geeks, ouvrez grand vos oreilles, car cet événement bariolé vous concerne. Du 17 au 19 novembre, la convention geek organisée par Art to Play se déroulait au parc des Expos de Nantes. La prochaine fois, foncez-y sur votre dragon machin chose, car ce parc est génialissime.
Et c'est Claude Ponty qui a sculpté les buissons du parc, alors avis aux amateurs de poussins en buis et de bancs géants.
Oui, d'ailleurs, je crois que Sarah a des chaussettes poussins. Revenons-en à nos moutons, nos geeks, pardon. L'événement prévoyait des concours cosplay, d'où les incongruités dans les rues, des shows voxmaker, des séances de dédicaces et tout le blabla. Il y avait même un bar geek, situé au centre-ville, juste à côté d'un bar maison, qui était bondé. Pourquoi? Parce que Naruto et son équipe glossière chantaient, voyons. Si, si, je vous l'assure, ce sont les geeks qui me l'ont dit.
On n'allège pas trop nos auditeurs avec ces... sympathique description puisque c'est déjà fini.
Oui, mais non! D'autres conventions geeks se dérouleront dans les semaines, voire les jours à venir. Dès ce week-end, courez à Istres avec le donjon de Nahulbuck dans les oreilles. Le 25, pas très loin de la mer, vous aurez peut-être l'occasion d'apercevoir des vaisseaux fantômes à l'horizon. Sinon, à Toulouse, qui fleure bon la violette, teignez vos jolies anglaises de cette couleur entre le 2 et le 3 décembre, donc le week-end après-prochain. Êtes-vous particulièrement casanier? Pas de problème, vous pourrez rencontrer de charismatiques senpai à Lyon, puisque s'y déroulera alors la Japan Touch. Peut-être vous sentirez-vous touché par eux. Esprit pervers, s'abstenir, merci. En parlant d'esprit pervers, je me tourne vers toi, Léa. Tu nous emmènes où cette semaine?
Cette semaine, je vous emmène à Saint-Étienne. Ah. Et d'abord, direction le MAMC, le Musée d'Art Moderne et Contemporain. Parce qu'à ce moment... Anish Kapoor, rien que ça, semble avoir retourné complètement la peau d'une des salles des musées pour exhiber sa chair. On y entre et on est pris à la gorge. Au-dessus de nous, sur les murs, des morceaux de cire rouge sont suspendus et semblent très lentement tomber. Est-ce de la chair écorchée, du sang coagulé? En tout cas, c'est une matière hétérogène et mystérieuse qui semble à la fois se déplacer toute seule et encore porter les marques de l'artiste. Et au centre, on a cette installation, une immense assiette de cire rouge sur laquelle un bras métallique tourne lentement, très très lentement, raclant la cire, la raccrochant de ça, de là. C'est hypnotisant. Le rythme de notre corps en fait se cale sur la lenteur du procédé. On voudrait se fondre dans cette masse organique pour ne faire qu'un. Et nous le sommes un peu d'ailleurs, car cette pièce est reflétée par deux autres œuvres, des miroirs ronds et concaves qui, lorsqu'on passe devant nous, transforme complètement et nous mêle à l'œuvre. Il nous place là où nous n'avons pas l'habitude d'être. Bref, c'est une expérience perceptive en soi et l'occasion de découvrir ensemble des parties de l'œuvre d'Anish Kapoor qui n'avaient auparavant jamais été réunies. Si vous y passez, ce sera l'occasion de découvrir la grande collection de ce musée qui est en partie dévoilée pour ses 30 ans, ça vous dit peut-être quelque chose, lors d'un parcours thématique qui met en dialogue des œuvres d'époques différentes. C'est une approche très pédagogique et en même temps pas simpliste dans ses explications. Donc c'est peut-être pas mal pour une première approche de l'art moderne et contemporain. Ensuite, direction la Cité du Design. C'est un immense lieu, ancienne manufacture d'armes où jusqu'à 10 ans on fabriquait les FAMAS, donc les fusils d'assaut de l'armée française. Entre les fusils et le design, il y a, m'a-t-on dit, une filiation. Celle de l'ornementation, mais aussi celle de la technologie. Bon, bref, aujourd'hui, c'est une école d'art et aussi un lieu d'exposition. En ce moment, on peut en voir une exposition sur les objets connectés. Un pari pas évident, mais assez bien relevé. On remonte l'évolution de ces objets, de la tablette d'argile au robot humanoïde. Et cette archéologie de l'objet est faite par des grands cartels très documentés qui n'hésitent pas à pousser loin, donner des infos pointues et qui ont l'intelligence de mettre en note de bas de page des références vers des articles. J'ai appris par exemple qu'une des grandes évolutions de la radio vers l'Internet, c'était l'Aloha de l'Université d'Hawaï qui permettait la transmission de données d'île en île. Donc c'est une expo où on se documente et où le travail, c'est aussi à nous de le faire. Mais en nous laissant un espace, des bancs et des livres sur le sujet, on nous incite très bien à prendre un moment pour réfléchir à l'Internet des objets. Et puis, il y a aussi en fin d'exposition toute une collection d'objets intelligents. Ça va de l'ombrelle qui se transforme en parapluie quand il pleut à la smart canne, la canne qui, en cas de chute, appelle les proches d'une personne, ou alors la chaussette connectée qui vous tient au courant de votre forme physique. Autant d'objets qui se trouvent à cette exposition qui s'appelle « Are you talking to me ? Usage et pratique des objets communicants » et c'est jusqu'au 7 janvier à la Cité du Design. Restons encore un peu à Saint-Étienne, s'il vous plaît, car on ne se lasse décidément pas de cette ville. On fait seulement quelques petits mètres pour arriver à la Nouvelle Comédie. Nouvelle car ça fait quelques mois maintenant que la Comédie de Saint-Étienne s'est installée près du Fil et du Zénith. Elle abrite une salle immense, c'est le plus grand plateau que j'ai jamais vu dans un théâtre fermé, je crois. Et alors qu'est-ce qu'on voit sur ces planches, sur les très grandes planches de la Comédie ? Écoutez, j'ai eu la chance de voir hier la générale d'un spectacle qui sera joué à partir de demain, Vernon Subutex. Ceux qui ont lu les romans de Virginie Despentes comprendront que la tâche n'est pas aisée. C'est une langue très particulière et qui se module assez peu. Et justement, c'est ce que parviennent à faire les très jeunes acteurs élèves de la Comédie. Insinuer des nuances, creuser des personnages dans un matériau de base pourtant assez homogène et puis tirer de cette œuvre non pas son fil narratif mais une galerie de portraits de personnes qui ont vieilli, qui regardent en arrière et se demandent un peu à quoi bon. On rit beaucoup pendant ce spectacle et on s'attache aussi à tous ces gens qui semblent, un peu comme dans Comédie de Beckett, être chacun engoncé dans leur petit monologue personnel. À voir, donc, à la Comédie de Saint-Étienne du 23 au 25 novembre. C'est la fin de mon petit tour stéphanois et très sincèrement, je vous engage à aller vadrouiller dans cette ville à qui l'automne va si bien. Maintenant qu'on s'est bien éloigné de nos auditeurs lyonnais, on va peut-être les caresser un peu dans le sens du poil et se rapprocher même très très près. À l'ENS, où se trouve en ce moment un artiste, Vahan Segomonian, c'est dans la galerie Artemisia, une galerie Artemisia transfigurée, transformée en serre avec des plantes qui poussent sous sonde, au-dessus d'elle un satellite qui plane. Et c'est dans une ambiance sonore doucement inquiétante qu'on écoute l'artiste qui nous parle de son projet.
On est ici dans l'exposition Phytolithes Squelés, qui est la quatrième transformation d'un projet qui s'appelle Phytolithes, pour lequel j'explore la plasticité du côté de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire en quoi est-ce que les lieux ont une faculté d'émergence de forme. Donc ici à l'ENS, ce que j'ai proposé, c'est de faire une école dans l'école, c'est-à-dire qu'on commence par une bibliothèque de forme, dans le premier temps déploie les différentes formes qui ont émergé en fonction des lieux dans lesquels le projet a été montré. Donc ce projet, c'est de faire une analogie entre les plantes de rue et les artistes. Il y a pour le moment trois unités de croissance qui sont là. Une première qui part d'un satellite russe des années 70 qui a émergé dans un lieu de résidence pour artistes, la Factatory, qui est la résidence de la galerie Roger Tator. On a une fondation en lévitation qui a émergé à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, une synthèse ascendante et descendante qui a émergé dans une galerie à Bordeaux, second bureau. Et donc ici, on fait une école. Et l'objet principal, on va dire, qui va émerger d'ici, ça va être un château d'eau qui sera construit par Bertrand Grosol et alimenté en vibrations sonores par Tommy Yard.
Et donc dans tes mains, tu as un livre que tu es en train d'éditer. C'est un recueil de poèmes avec aussi des photographies. Tu nous en liens ?
Moi, j'ai un peu la trouille. Quelle va être ma vie ? Ça n'ira plus jamais pareil parce qu'il y a quelque chose qui est mort. Je te laisse tout. Les palmiers, les maillots de foot, jaunes et roses fluo. Tu veux qu'on rigole, on va rigoler. Ta gueule, toi. Ils sont vifs. Connard de coucher de soleil. On prend l'apéro, on l'a dans la gueule. Je suis désolé. Je m'attache trop aux choses du passé. Il y a des choses qui m'ont dit que j'ai pris comme des trésors. Je ne veux pas te réveiller. C'est bien que tu dormes. Qui mieux qu'un robot peut dire « Je ne suis pas un robot ».
Ce recueil est à paraître et ce n'est pas tout. On attend aussi un événement dans la galerie, alors on écoute Tommy Yard. C'est lui qui a composé la partie musicale de cette création.
Je fais un petit concert à la galerie Artemisia, à l'ENS, le 1er décembre. Et c'est en fin de journée et ça s'appelle « Petit fuglet de fin de journée ». En chantant, ah non, je me suis trompé. En chantant Fuglet de fin de journée, il me semble. Voilà. Donc,
le titre n'est pas de toi ?
Détente. Si, mais d'une autre époque.
Donc l'idée, c'est d'improviser en fonction de ce lieu ?
Une petite fugue, voilà, de recentrage. Voilà. Franchement, pour l'instant...
Tu sais quel instrument tu vas mobiliser ou pas du tout ?
Ouais, c'est souvent autour d'un ordinateur. Mais par contre, j'aimerais bien croiser Mehdi, parce qu'il joue du oud. Mehdi, c'est un des jardiniers de l'ENS. Et on a déjà commencé un peu à faire de la musique ensemble, mais j'aimerais bien quand même pouvoir faire un truc à ce moment-là. Mais je sais pas si ça se fera, on verra. En attendant, je vais improviser des choses probablement avec tout ce qu'on a déjà et diffuser probablement des protéodies. C'est des séquences musicales issues de la création des protéines et qui mettraient en résonance certaines actions des plantes.
Donc rendez-vous le 1er décembre sous les néons artémisiens. Maintenant que nous sommes rentrés à Lyon, est-ce qu'on n'aurait pas un peu envie de quitter les murs de l'école, de volter vers la presqu'île pour aller retrouver notre cher et tendre, j'ai bien nommé Fred II. J'avais été très enthousiaste sur cette exposition il y a quelques semaines et je crois que toi aussi, Marthe, tu aimerais nous en dire quelques mots.
Absolument. Eh bien, si vous n'êtes pas partis en week-end, je vous recommande chaudement l'exposition actuellement au Musée des Beaux-Arts intitulée « Le monde de Fred II ». Un monde, oui, et pas le monde le plus lumineux qui soit. Hein. Ce qui frappe dans cette exposition singulière, enfin du moins ce qui m'a frappé moi, c'est d'abord la noirceur de ces toiles, dont pas un centimètre carré n'est pas crayonné. Issu d'une famille ouvrière assez modeste, cet artiste que je ne connaissais pas mérite vraiment toute notre attention, je crois. Il a visiblement été influencé par le surréalisme, et Fred II nous donne à voir des toiles terribles, réellement, qui forment ensemble une sorte d'anarchie anthropophage absolument saisissante. Parce que oui, sur ces dessins réalisés au crayon noir, bon, même s'il y a des taches de couleur, c'est absolument une sorte d'entre-dévoration qui est donnée à voir. Et au cœur de l'entremêlement des œsophages surgit la vie, de la vie oui, mais de la vie noire au point d'en devenir envahissante et presque répugnante. Alors oui, bien sûr, ce n'est pas très ragoûtant, mais l'œil du spectateur, je vous assure, est véritablement captivé, je dirais même pris au piège dans un double mouvement étrangement attraction-répulsion. Aussi, gare à vous, chers spectateurs, gare à ne pas vous faire happer par les tableaux, gare à ne pas laisser trop longtemps votre œil attaché à ces noires effusions de carbone, il y resterait collé.
C'est vrai qu'il y a quelque chose d'envoûtant, de destructeur chez Fred II, mais j'y ai aussi trouvé quelque chose d'assez onirique, d'aérien, non ?
Oui, d'une certaine façon, tout à fait. Dans ces toiles, on a l'impression vraiment que les racines descendent du ciel, parce qu'il il travaille beaucoup sur l'inversion du mouvement des arbres, avec des racines donc vraiment qui semblent émerger du ciel et venir se déposer sur le sol de ces toiles. C'est dans la mémoire que le ciel prend racine, dans les sombres palais de la mémoire, un thème qui revient de façon récurrente dans les titres de ces tableaux, lorsqu'ils en ont, car il y a une bonne partie qui n'ont pas de titre, et dont chaque recoin est un abîme d'impression et de sens. Des toiles à l'aspect reptilien, aspect certainement dû à l'ensemble constitué par les innombrables petits carreaux qui ponctuent chaque recoin. Cette multiplicité fait que le spectateur découvre un univers dans l'univers à chaque détour du regard, car l'œil se prend au jeu de l'infinie minutie des toiles. On a donc le paradoxe d'une œuvre qui captive en même temps qu'elle repousse et terrifie. C'est en effet une œuvre de la vie avortée, de l'extase terre à terre, qui devient l'extase organique que nous donne à voir Fred II. Donc pour terminer, j'aimerais juste faire allusion au tableau qu'il a peint intitulé La guerre, un tableau qui rappelle forcément forcément l'origine du monde, mais bien loin de l'optimisme peut-être dont le tableau de Courbet est porteur, Fred II attache nos yeux sur des jambes écartées qui expulsent un amoncellement de morts, et c'est ainsi l'origine de la mort que l'on trouve à la place de l'origine de la vie. Donc une exposition qui plonge le spectateur dans un temps magique, pour reprendre l'expression qui figure sur une de ses toiles.
Merci Marthe, alors c'est la fin de notre journal amplifié, de notre
journal de la culture. Ah non, tu ne la refais pas cette semaine.
Pardon, maintenant enfilez vos shorts et vos baskets, on passe au sport avec en sueur.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
En effet, on trouve justement une nouvelle chronique dans ce journal radiophonique amplifié. C'est l'actualité sportive qui vous est présentée par François René. Rebonsoir François René.
Rebonsoir Rémi.